au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Au fil des pages, je reçois Laurent Bérébi, co-auteur avec le professeur Michel Aglietta, d'un ouvrage qui, de facto, est placé en pleine actualité avec les turpitudes financières que nous connaissons. Son titre, « Désordre dans le capitalisme mondial », paru chez Odile Jacob, lui donne un caractère prédictif que nous apprécierons pleinement tout au fil de cet entretien. Œuvre de référence, 445 pages pour 29 euros. Ce livre a reçu un accueil enthousiaste auprès d'un large public et vient d'être nominé dans la présélection de la 21e édition du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière qui sera décerné au Sénat le 4 mars prochain à l'issue d'un délibéré du prestigieux grand jury présidé par Michel Bon. Laurent Bérébi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le principe de cette rencontre, alors même qu'il n'était pas possible de reconstituer votre binôme avec Michel Aglietta, puisqu'il est, de son côté, retenu par son enseignement à HEC, si j'ai bien compris. Nous voilà donc investis d'une double mission, celle de porte-parole et de promoteur de votre livre, qui a été écrit donc à quatre mains. Je sais que vous ferez ça très bien. Merci donc à vous. Avant de rentrer dans le fond du thème que vous avez traité, je rappelle que Laurent Bérébi, vous êtes chef économiste à Groupama Asset Management, le très dynamique assureur mutualiste. Vous êtes polytechnicien, ENSAE, administrateur de l'INSEE, et vous avez fait un passage aussi bref que remarqué à l'Association française des banques. Quant à Michel Aglietta, docteur en sciences économiques, professeur à l'Université de Paris 10 Nanterre, professeur aussi à HEC, consultant du CEDIF, il est l'une des personnalités les plus reconnues et fait totalement autorité dans l'enseignement de l'économie et de la finance française. Il est l'auteur de très nombreuses parutions, d'ailleurs assez régulièrement en duo, et ceci m'a frappé, que ce soit avec Sandra Amouati ou Antoine Ribériou. Mais c'est avec André Orléans, autre ténor de l'enseignement économique, qu'il a obtenu en 2002 le prix spécial du jury du prix Turgot. C'est donc avec cette nouvelle nomination un début, en tout cas on l'espère pour vous, de récidive. Mais il faut attendre le 4 mars 2008 au Palais du Luxembourg pour le palmarès du prix Turgot. Alors, premièrement, Laurent Bérébi, est-ce que vous voulez apporter un complément sur ce que je viens de dire ou est-ce que je commence à vous poser la première question ? Pour l'instant, vous n'avez pas de remarques particulières. Alors, première question, pourquoi avoir choisi, peut-être pour votre premier ouvrage, peut-être, semble-t-il, d'avoir écrit en duo ? Est-ce que c'est plus plaisant ? Est-ce que c'est plus difficile ? Quelle est la leçon de cette expérience ?
C'est une très bonne question parce que finalement, il est assez difficile d'écrire à quatre mains. C'est beaucoup plus facile d'écrire tout seul parce qu'on a bien sa pensée, on a bien son mode d'écriture. En revanche, à quatre mains, c'est aussi à deux têtes. Donc, il faut être d'accord sur la pensée que l'on veut intégrer, sur les réflexions qu'on veut intégrer dans le livre. Et puis, il faut être aussi, du point de vue du style, ne pas être trop différent, de façon à ce que ça ne se voit pas.
Alors, c'est le cas. Hein. Je dois dire que ça ne se voit pas. On ne voit pas trop de séquences et de différences de style. J'en conclus que vous êtes tout à fait proche au niveau de la pensée du professeur Aglietta. Ça, il a été votre professeur ou pas ?
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout. Mais on a la chance de travailler ensemble depuis quelques années. C'est-à-dire que Michel est à Groupama Asset Management, donc ma société dans laquelle je suis chef économiste. Il est conseiller de Groupama Asset Management, mais il travaille au sein même de l'équipe des études économiques, maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Et la réflexion qu'on a eue durant ces 4 années, eh bien, cette réflexion, on l'a forgée, on l'avait mise aussi bout par bout sur papier au sein de Groupama Asset Management dans une revue qu'on a développée en interne qui s'appelle la revue Expertise. Et on a donc décidé de faire un livre rassemblant tous ces éléments de réflexion.
Donc, c'était une continuité.
Donc une continuité de la pensée qu'on avait déjà en commun. Donc, c'est une pensée qu'on partageait. Et puis, donc, aussi, on savait, quand vous écrivez un livre avec quelqu'un, il faut absolument savoir comment il fonctionne. Et donc là, puisqu'on a écrit différents numéros de cette revue Expertise en commun, eh bien, on savait comment l'un et l'autre fonctionnaient. Et donc, c'était beaucoup plus facile, évidemment.
Vous avez pu l'expérimenter. Et d'ailleurs, Aglietta, Michel Aglietta, lui, de son côté, semble ne pas craindre d'écrire en duo. Alors, j'en viens, merci pour cette première réponse, j'en viens donc maintenant au fond. Le monde développé et la planète finance sont entrés dans une phase de doute généralisé liée à des grandes peurs. La mondialisation, les guerres, le terrorisme, les prix et la rareté des énergies fossiles, en particulier le pétrole.
Absolument.
Et bien sûr, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les désordres économiques et financiers qui en découlent. Alors, cette première question naturellement, quelle est l'origine de ces grands désordres, selon vous, selon la thèse que vous développez ?
C'est une très bonne question et j'aimerais dire que finalement, la réponse est dans le titre. Donc, je rappelle le titre « Désordre dans le capitalisme mondial ». Eh bien, finalement, ces désordres proviennent d'un nouveau capitalisme. Ce qu'on a appelé, nous, le capitalisme mondial, ce qu'on appelle régulièrement la globalisation.
Bien sûr.
Alors, c'est une globalisation à la fois financière, à la fois économique concernant la sphère réelle. Et donc, par rapport à cette globalisation,
c'est la phase 2 de la globalisation.
Tout à fait, c'est la phase 2. C'est finalement la phase la plus difficile parce que dans cette phase, il faut que les agents économiques, mais également les institutions politiques, les institutions économiques, monétaires, soient adaptées à cette globalisation que l'on a maintenant depuis plusieurs années. Et ce que l'on décrit dans ce livre, donc c'est finalement en quoi consiste ce nouveau capitalisme mondial. Et qui veut dire capitalisme veut dire système de formation des prix, parce que c'est évidemment lié. Et on décrit donc de nouveaux modes de formation des prix, à la fois sur le marché des biens et services, à la fois sur le marché de l'emploi, à la fois également sur les marchés financiers, que ce soit les marchés actions, les marchés de taux. Et puis, évidemment qu'on pourra revenir sur ces modes de formation des prix qui sont complètement différents aujourd'hui de ce qu'on avait il y a 10 ans.
Vous dites à un moment donné que c'est un affaiblissement des salariés et une montée de l'endettement.
Absolument. C'est les conséquences. Alors déjà, nouveau mode de formation des prix et nouvelles conséquences sur la régulation économique actuelle.
D'accord.
Et donc, sur les salariés en particulier et sur les entreprises, il s'est passé quelque chose que l'on date, nous, alors on a choisi de le dater à partir de la crise asiatique 97-98.
Les bulles.
Voilà.
Surcapacité, etc.
Exactement. Donc, il s'est créé, il a été provoqué par la crise asiatique, un phénomène de surcapacité mondiale. Mais qui veut dire surcapacité mondiale veut dire insuffisance de demande par rapport à l'offre. Et donc, fait référence inévitablement à un excès d'épargne dans le monde. Alors ça, il faut le mettre en corrélation, évidemment, avec cet excès de liquidité dont on parle sans cesse.
Alors, ce n'est pas le cas des USA.
Alors, ce n'est pas le cas, voilà. Ce n'est pas le cas des USA parce que pour faire pan à ce qui s'est passé dans les économies asiatiques, ils ont réorienté leur croissance vers l'extérieur plutôt que vers la demande intérieure. Donc, les USA, eh bien, les États-Unis ont choisi pour sauver le monde également, mais on choisit de favoriser leur demande intérieure. Leur demande intérieure qui a soutenu l'ensemble de la croissance mondiale. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a eu un déséquilibre de ce côté-là. Donc, il s'est traduit par un déséquilibre financier américain, mais aussi qui s'est traduit par un déséquilibre mondial, puisque, en fait, les pays émergents, ces pays asiatiques qui sont des pays émergents, qui veut dire pays émergent veut dire un besoin d'investissement très important, donc un excès d'investissement par rapport à l'épargne dégagée.
Absolument.
Et ce qui n'a pas été le cas depuis 1998, puisqu'on a assisté dans ces économies qui ont été touchées par la crise asiatique, mais aussi en Chine, qui a un gros problème aujourd'hui pour l'ensemble de l'économie mondiale, eh bien, on a assisté à un excès d'épargne par rapport à l'investissement.
Alors ça pousse plutôt à la déflation qu'à l'inflation.
Alors voilà. Donc, qui veut dire excès d'offres par rapport à la demande et donc excès d'épargne par rapport à la consommation.
Insuffisance de la demande par rapport à l'offre.
Voilà,
ça revient un peu.
Ça revient à la même chose. Eh bien, ça veut dire que les entreprises ont un pouvoir de marché insuffisant. Ça signifie que finalement, ceux qui ont le pouvoir sur les entreprises, ce sont les clients. Ce sont les clients qui vont décider, voilà, si les entreprises vont baisser leurs prix ou vont augmenter leurs prix. Si la demande est suffisamment forte, les entreprises vont pouvoir augmenter leurs prix. Si la demande est insuffisamment forte, les entreprises seront obligées de baisser leurs prix, même si elles peuvent connaître des hausses de coûts importantes, que ce soit des coûts énergétiques ou des coûts salariaux.
Oui, bien sûr. Donc, le déséquilibre joue contre eux.
Contre elles.
Mais est-ce que c'est le même ordre de réflexion en ce qui concerne les excédents, on va dire, financiers, monétaires, et la financiarisation de l'économie qui, elle-même, par ses excédents, fait que les banques centrales ont certainement moins de prise sur la régulation qu'elles en avaient auparavant?
Alors, avant d'arriver à cette question,
oui.
Je vais parler également du marché. Donc là, on a parlé du marché des biens et services.
Oui.
Maintenant, il y a le marché de l'emploi.
Absolument. Alors, effectivement, on peut ouvrir une parenthèse.
Donc, sur le marché de l'emploi, avec l'arrivée de l'Inde et de la Chine sur le marché du commerce mondial, eh bien, on a globalisé un excès de réserve de main-d'œuvre dans le monde parce que ces économies sont en excès de réserve de main-d'œuvre.
Absolument.
Et donc, cette globalisation de l'excès de réserve de main-d'œuvre dans le monde a fait que les salariés, aujourd'hui, ont beaucoup moins de pouvoir de négociation par rapport aux entreprises.
Alors, vous voulez dire que dans les pays développés,
dans les pays
développés, c'est la conséquence directe de l'état de suroffre de travail.
Exactement.
Dans les pays émergents, on va dire.
Exactement. Okay. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça qui est fondamental dans l'économie actuelle, c'est qu'auparavant, dans les années 70, 80, 90, ceux qui avaient le pouvoir sur les entreprises, ce n'étaient pas les clients, c'était les salariés. Parce qu'il suffisait d'un choc pétrolier, d'un choc donc sur l'inflation important, pour que ce choc d'inflation soit répercuté sur les négociations salariales et sur les augmentations de salaire. Et puis, donc, ce choc d'inflation était inévitablement répercuté à la fin sur les clients, puisque les entreprises avaient le pouvoir sur les clients, puisqu'on était à la fois dans une situation de pénurie d'offres sur le marché de l'emploi et sur le marché des biens et services. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont les clients qui ont donc le pouvoir sur les entreprises, mais les entreprises ont le pouvoir sur les salariés.
Donc on voit la boucle, c'est carrément inversé.
Complètement inversé. Et donc, ces mécanismes de prix qui sont foncièrement différents ont amené au déséquilibre actuel. Pourquoi ? Parce que on a eu, pour soutenir finalement les salariés qui soutiennent l'ensemble de l'ajustement aujourd'hui, ce sont aussi les clients des entreprises. Donc finalement, si la demande des salariés est insuffisante, il y aura de plus en plus de pression sur le pouvoir de marché des entreprises, il y aura plus en plus de pression sur les marges des entreprises, et ces pressions sur les marges des entreprises vont in fine se répercuter sur le pouvoir d'achat des salariés. Donc on a choisi de soutenir la demande des salariés par une croissance de leur endettement. Donc c'est ce à quoi on a assisté maintenant depuis à peu près une dizaine d'années, une croissance très forte de leur endettement. Alors maintenant, on pourra s'interroger pour savoir comment ça s'est fait et comment ça a pu être possible. Une croissance très forte de leur endettement, mais les économies occidentales étaient coincées parce que si le salarié ne s'en était pas suffisamment, eh bien, c'était toute l'économie occidentale et toutes les économies en règle générale qui allaient finalement connaître des pressions déflationnistes intenses et donc qui allaient se répercuter sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur les déséquilibres économique actuelle et les déséquilibres financiers. Maintenant, pour revenir à la question sur les banques centrales. Alors, finalement, lorsque on est dans le schéma actuel qui est les clients ont le pouvoir sur les entreprises, qui ont le pouvoir sur les salariés, et donc il y a des pressions déflationnistes, c'est-à-dire que si on est en insuffisance de demande, ce qui est le cas aujourd'hui structurellement, donc on est dans la situation keynésienne structurellement, c'est-à-dire sur le long terme, eh bien, il n'y a plus de d'inflation à long terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pressions inflationnistes à court terme.
Donc la BCE est complètement à contre-courant alors.
Alors, ce n'est pas seulement la BCE, je dirais, c'est l'ensemble des banques centrales. C'est-à-dire que quand les banques centrales insistent sur l'inflation, bien, ça y est, les marchés, eux, ils en ont déjà tenu compte. Même s'il y a des craintes, il peut y avoir des craintes de pression inflationniste plus forte à court terme. Mais les marchés ont intégré le fait qu'il n'y a plus d'inflation à long terme, que l'économie actuelle, qui est finalement la conséquence de la mondialisation, eh bien, ne génère plus d'inflation à long terme. Ça a eu des conséquences sur les marchés de taux. Donc, on explique dans ce livre que, à déterminant constant, comme on dit en économie, toutes choses égales par ailleurs, mais à déterminant constant, aujourd'hui, les taux longs sur les marchés, dans les économies occidentales, économies développées, sont 200 points de base plus bas que ce qu'ils étaient il y a quelques années auparavant. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que, également sur le marché des actions, on n'est plus, alors ce que l'on considère dans ce livre, dans un cycle monétaire, c'est-à-dire finalement où les baisses de taux sont importantes du point de vue de la capitalisation boursière, ce n'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, le marché des actions est dirigé par les perspectives de profit uniquement. Donc, les investisseurs en ont déjà tenu compte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de crainte d'inflation à long terme. Maintenant, les institutions économiques, politiques et monétaires, pour l'instant, et c'est ce qu'on dit dans ce bouquin, ne sont absolument pas adaptées à ce nouvel ordre du capitalisme mondial aujourd'hui.
Et donc, justement, les prévisions et les perspectives de résultats des entreprises sont plutôt bonnes, alors même que partout, tout s'écroule et que tout va mal.
Alors, ces perspectives de résultats des entreprises, c'est plutôt bon sur le non-financier jusqu'à une date très récente.
À l'exception du non-financier, mais on va y venir.
On va y venir. Donc, c'est plutôt bon sur le non-financier jusqu'à une date très récente. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui fait peur au marché, et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais qui fait peur au marché, c'est la manière dont on va résoudre la crise. Et donc, cette manière, cette façon dont on va résoudre la crise a un impact sur ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque sur les marchés financiers, les marchés actions, est en train de sensiblement augmenter. Vous avez...
Plutôt heureux, non? Parce qu'à un moment donné, le risque ne se payait pas.
Voilà. Alors, la question finalement que vous posiez, qui est une question pertinente, est-ce qu'on assiste à un... ce qu'on dit en finance, c'est-à-dire un pricing du risque, c'est-à-dire un coût du risque qui est aujourd'hui mieux apprécié par les marchés par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Alors, c'est vrai sur le marché du crédit aux entreprises, notamment aux entreprises non financières. Mais est-ce que dans la prime de risque qui est intégrée sur les marchés des actions, il n'y a pas une prime de risque qui est davantage due à la crise financière, aux craintes et aux angoisses des marchés financiers sur quelles seront les conséquences à long terme de la crise financière actuelle? Alors, cette crise financière, alors je ne sais pas si on peut...
On y vient.
Donc, cette crise financière, elle est due évidemment au déséquilibre que j'ai cité en tout début d'émission. Donc, au déséquilibre. Ces déséquilibres, pour nous, c'est ce qu'on disait dans le livre, étaient insoutenables. Alors, ceux qui disaient que justement, les déséquilibres, compte tenu de la globalisation actuelle, eh bien, on pouvait avoir des déséquilibres très importants aux États-Unis sans... impact sur l'économie financière, l'économie réelle. Nous, ce qu'on disait, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que les États-Unis vivaient très largement au-dessus de leurs moyens, que l'économie américaine avait besoin des capitaux des non-résidents pour continuer à fonctionner. Ces capitaux des non-résidents prenaient la forme de titres de dette, tout titre de dette confondu, et avec en conséquence une bulle immobilière sans précédent aux États-Unis. Donc, ce que l'on dit...
L'argent facile
qui favorisait la création de crédit, la création monétaire, et qui a donc favorisé également la bulle immobilière aux États-Unis.
En définitive, cette consommation se substituait à une politique d'investissement, puisqu'en fait, c'est la consommation qui tirait totalement la croissance américaine.
Voilà, mais...
À travers l'immobilier.
Absolument. Alors, c'est à travers l'immobilier, c'est bien la consommation qui tirait la croissance américaine. Mais la question qui se posait, et donc c'est l'illustration que donnaient les déséquilibres, c'est est-ce qu'un monde qui est basé, qui est fondé sur la croissance américaine, n'est plus, est-ce que c'est un monde qui tourne rond, qui ne tourne plus rond?
Alors, moi, j'ai tendance à penser comme vous que la façon dont vous présentez la question apporte une réponse, c'est qu'effectivement, il ne tourne plus rond. Ce vent mauvais qui vient des États-Unis commence à devenir insupportable.
Voilà. Alors, il ne tourne plus rond. On a voulu se fermer les yeux sur le risque. Nous, dans le livre, on disait, à partir du moment où le risque sur les ménages américains allait fortement augmenter, donc à partir du moment où, par exemple, la bulle immobilière allait éclater, eh bien, les non-résidents n'accepteraient plus de financer l'économie américaine comme ils l'ont accepté les années précédentes. Et donc, inévitablement, on allait assister à une crise de financement de l'économie américaine, et une crise, finalement, qui concerne l'ensemble de l'économie mondiale, parce que l'économie mondiale aujourd'hui était essentiellement, enfin jusqu'à une date récente, et reposait essentiellement sur le consommateur américain.
Tout à fait. Et donc, et ce leadership américain, il est aujourd'hui devenu totalement néfaste parce qu'il ne correspond plus au rôle que les États-Unis ont pu jouer, on va dire, dans les précédentes décennies. Et il devient aujourd'hui quasiment pervers. C'est un petit peu ce que vous dites. La première des responsabilités, c'est celle des États-Unis. Je rappelle ce que disait, à quelque part, dans un passage du livre, le professeur Aglietta. Je crois qu'une modification profonde des principes de gestion de la finance est l'étape nécessaire dans la globalisation. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Comment on s'en sort en quelques flashs au niveau international, au niveau de l'Europe et au niveau de la France? Ça nous concerne aussi un petit peu.
Alors, comment on s'en sort? Alors,
quelle gouvernance, en
quelque sorte. Quelle gouvernance, exactement. Finalement, le nouveau capitalisme mondial aujourd'hui nécessite un nouveau mode de gouvernance de l'économie mondiale. Donc, ce n'est plus un leadership américain. Nous, nous attendons à ce que les mesures qui soient prises unilatéralement aux États-Unis ne soient plus suffisantes pour résorber justement ce genre de crise. Nous, ce que nous disons dans le livre, c'est que la meilleure façon et probablement la seule façon, nous le pensons, de résorber ce genre de cette crise actuelle, qui est une crise structurelle, hein, donc c'est une crise de la fin d'un modèle, d'une économie mondiale qui a été essentiellement tournée vers les États-Unis. Eh bien, nécessite une coopération internationale, nécessite une coordination des politiques économiques. Parce que une crise où les États-Unis cherchent à s'en sortir tout seuls, comme ça a été le cas durant la crise 2001-2003,
les baisses de taux.
À travers les baisses de taux, à travers les plans de relance budgétaire uniquement, également, enfin, uniquement du côté américain, eh bien, pour nous, n'est pas. La réponse n'est pas le remède à la crise actuelle.
Alors, deux questions justement dans ce domaine, dans ce que vous y répondez partiellement. Donc, la politique de relance américaine qui vient d'être arrêté, 140 milliards par rapport aux 5 000 milliards qui se sont évaporés sur les bourses mondiales, ça vous paraît pas un peu juste?
Alors, dans la crise, il faut savoir ce que l'on fait à court terme et ce que l'on fait à long terme. À court terme, j'aimerais dire, ben, finalement, on va donner des antidépresseurs. Donc, les antidépresseurs, c'est des baisses de taux importantes. C'est le plan de relance budgétaire. Alors, les antidépresseurs, pour éviter à l'économie américaine de tomber en dépression, c'est le cas. Et dépression, ça signifie tout simplement que le schéma suivant, une récession assez dure aux États-Unis, avec des réductions d'emplois assez importantes, qui ferait monter le taux de chômage de manière très importante, qui augmenterait le risque financier sur les ménages américains encore plus, et qui mettrait à mal le système financier américain, alors qu'il est déjà élevé, avec l'éclatement de la bulle et la baisse des prix immobiliers. Donc on veut absolument éviter cela. Parce que si on tombe dans ce contexte-là, eh bien, c'est une dépression pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs ce qui semble découler des dernières déclarations du directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, que nous connaissons bien en tant que Français et doublement, puisqu'il a été longtemps professeur à l'Institut de haute finance, qui a été créé par le président Georges Pompidou en 1972. Et vous savez d'ailleurs, je le signale au passage, que ce sont les élèves de l'Institut de haute finance qui organisent le prix Turgot. Nous connaissons donc bien doublement le professeur et maintenant directeur général Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il considère, lui, que c'est le moment de mixer une politique budgétaire et monétaire et que la politique monétaire ne suffira absolument pas. Voilà ce qu'en dit Larry Summers, qui est un ancien secrétaire d'État au Trésor américain. Il considère que c'est un moment historique, puisque c'est la première fois en 25 ans que les FMI préconisent une relance budgétaire plutôt que la rigueur. Donc, ça mesure l'intensité de la problématique.
Vous partagez. Tout à fait. Et j'aimerais insister, j'aimerais préciser également le fait que ce plan de relance aux États-Unis a été demandé par M. Bernanke, qui est le président de la Réserve fédérale. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très, très longtemps.
D'accord.
Donc, ce qui est rassurant, encore une fois, ce n'est pas le fait qu'il. Je dirais que le fait qu'il.
C'est la prise de conscience générale.
C'est la prise de conscience générale.
Tout à fait.
Et donc, c'est une prise de conscience générale à la fois aux États-Unis et à la fois dans l'ensemble de l'économie mondiale. Donc ça, c'est très rassurant.
Oui. Alors, donc, ça c'est le versus optimiste. Donc, ceci ne me donnera aucun regret de vous poser une dernière question un petit peu pour la gratter, qui est en liaison, bien entendu, avec l'actualité tout à fait récente et l'incroyable affaire de la Société Générale avec une perte abyssale de 5 milliards. Alors vous, qui êtes un professionnel des marchés, qui savez ce que c'est que les risques sur les dérivés, etc., les marchés à terme, vous y croyez, vous, à la thèse de l'homme seul, du trader fou, qui engrange 5 milliards de pertes, mais sans dévoiler de secret professionnel. Votre sentiment, comme ça, brut.
Mon sentiment, c'est que c'est plus ou moins crédible. Mais
plutôt moins que plus.
Mais j'aimerais insister sur le fait que toute crise financière comporte une crise de gouvernance. Et cette crise de gouvernance, eh bien, on assiste à cette crise de gouvernance en ce qui concerne le système financier aujourd'hui. Cette crise de gouvernance qui a touché les banques d'investissement entre août et depuis août 2007 et qui maintenant touche les banques commerciales. Donc c'est réellement une nouvelle gouvernance à mettre en place, un nouveau type de régulation également, parce que qui dit gouvernance veut dire finalement contrôle des risques au sein de la banque, et finalement on voit bien la défaillance du contrôle des risques de la Société Générale. Alors on peut dire que c'est le fait d'un seul trader, c'est le fait d'une seule personne, mais ils sont passés complètement à côté, apparemment il a pris des positions sur des marchés qui étaient très organisés. C'était des marchés aussi. Il a pris des positions sur les indices boursiers.
Donc, au minimum, ça laisse sceptique, d'autant que lorsqu'on est dans une entreprise qui a une culture de risque fort et depuis longtemps, on peut rappeler, c'est le bon sens ce qu'il nous dit, que c'est plutôt en été et dans les forêts que les incendies prennent, et a fortiori lorsqu'on donne des allumettes à des incendiaires et qu'on les lâche au milieu de la forêt. Alors, une nouvelle fois, Laurent Bérébi, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Cet ouvrage que vous avez écrit à deux mains avec Michel Aglietta était particulièrement remarquable. Il a été très apprécié par le grand public. Il est déjà remarqué par le prix Turgot. Je le rappelle, Michel Aglietta, Laurent Bérébi, Désordre dans le capitalisme mondial, 445 pages, 29,90 €. Laurent Bérébi, merci encore à vous.
Merci à vous.